Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour, bienvenue pour notre cinquième cours déjà. Merci d'être venu malgré le beau temps pour vous intéresser à Caïn, à Abel et après à des généalogies. Alors là, ça va faire un peu appel à vos capacités mathématiques. Donc, si vous voulez faire la sieste, faites-la maintenant et pas après. Il faut être bien réveillé. Donc, mais nous allons continuer avec l'histoire de Caïn et Abel, qui d'ailleurs sera aussi le sujet du séminaire de la suite. Et donc, ça me permettra aussi d'aller un peu plus vite sur certaines questions. Donc, nous avons vu la semaine dernière, le texte, je vous le traduis. On avait vu comment Yahvé était impliqué dans la naissance de Caïn. Caïn qui apparaît dans d'autres textes, mais souvent apparaissent les Kénites, les descendants de Caïn, d'une certaine manière, qui apparaissent comme un tribu et, dans certains cas, même comme des vénérateurs de Yahvé. Alors que là, le Caïn ici, il est en conflit avec Yahvé, mais il y a quand même des textes où les Kénites font penser qu'ils vénèrent Yahvé, ce qui a donné lieu à l'époque à une hypothèse dont j'ai parlé dans un autre cours, l'hypothèse midiano-kénite, à savoir que la vénération de Yahvé a été apportée à Israël par les Madianites et les Kénites, qui sont un peu liés, puisque Obab, qui apparaît parfois comme Kénite, est aussi un des noms du beau-père de Moïse. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Caïn signifie le javelot, ou c'est lui qui le fabrique, donc forgeron, artisan. Et on a pensé que les Kénites étaient peut-être des groupes non sédentaires qui pratiquaient à la fois l'élevage et la métallurgie. Ce qui a fait penser que Yahvé, c'était un dieu des forgerons à l'origine, mais c'est peut-être un peu exagéré. Dans notre histoire de Caïn et Abel, la métallurgie ne joue pas vraiment de rôle, mais il est possible qu'en effet, il y a des forgerons non sédentaires. On a quelques attestations dans le sud du Negev. Donc, est-ce que l'histoire de Caïn et Abel garde un souvenir de ce Kénite forgeron métallurgiste ? Difficile de savoir. On peut aussi penser que Caïn, nous avons vu, il y a un jeu de mots avec la racine cana, acquérir, mais surtout créer. Ça, souvenez, on a vu ça la semaine dernière. Et il y a peut-être aussi encore un autre jeu de mots, bien que ce n'est pas vraiment utilisé, mais qui est souvent utilisé par la tradition rabbinique, avec la racine cana, avec aleph, qui veut dire être jaloux. La jalousie de Caïn vis-à-vis de son frère, bien que ce n'est pas thématisé avec ce verbe dans le récit. Donc Caïn et Abel, alors Abel, il est là pour disparaître, parce qu'à l'époque, personne n'aurait appelé un fils Abel, parce que Hevel, en hébreu, c'est le souffle, la buée, le petit vent, ce qui est rien. Donc, vous connaissez sans doute l'ouverture du Kohelet, l'Ecclésiaste, Hevel Hevelim, donc vanité des vanités, souvent c'est traduit comme ça, et c'est le nom de Hevel. Donc, personne n'aurait appelé son fils comme ça. Donc, on voit déjà encore que le fils Abel, c'est un peu un nom programmatique, comme d'ailleurs aussi, par exemple, dans l'histoire de Ruth, vous souvenez de l'histoire de Ruth, qui a donc deux fils, mais qui portait également deux noms qui indiquent qu'ils vont disparaître très vite de la scène, Mahlon, le malade, et Kilion, ce qui est passager, ce qui ne dure pas. Donc là, c'est aussi des noms programmatiques qui ont été inventés par le narrateur pour indiquer quelque chose déjà, en fait, au destinataire du récit. Donc Abel est là pour disparaître. Donc le vrai héros, entre guillemets, de l'histoire, c'est Caïn. Donc Abel apparemment est présenté comme un jumeau, puisque le texte hébreu nous dit qu'elle continua à enfanter, et c'est pour cela dans la tradition juive et chrétienne, mais je pense à raison, on a considéré que Abel était le jumeau. Donc des rivalités, des conflits entre frères, que ce soit auprès des dieux ou auprès des hommes, c'est assez connu. Je ne pourrai pas vous faire une liste exhaustive, je vous en donne quelques-uns. Seth et Osiris, c'est très connu en Égypte, évidemment, où Osiris, qui est l'inventeur de l'agriculture, est tué par son frère Seth, mais finalement, d'une certaine manière, gardé en vie par Isis, qui momifie son corps, et donc Osiris peut régner dans le monde des morts. En Grèce, vous avez Atrée, son frère jumeau Thieste, c'est intéressant aussi, se bat autour de la royauté, et c'est lié à une question de sacrifice, un peu comme ici chez Cain Abel. Castor et Pollux, très connu, des frères jumeaux, qui sont plus tard appelés Dioscures, qui sera un nom donné aux jumeaux divins. Et finalement, le plus connu peut-être, Romulus et Rémus, où il y a aussi un fratricide autour de la fondation de la ville de Rome. Il y a là plusieurs traditions, mais qui, en effet, vont toujours sur ces conflits entre les deux jumeaux. Et puis, dans le livre de la Genèse, vous avez aussi un certain nombre de conflits, que ce soit Ismaël, Isaac, Ésaü, Jacob, Joseph et ses frères. Bon, heureusement, ça ne se termine pas comme Cain et Abel, mais il y a quand même des conflits. Et Ésaü, si vous vous souvenez, il menace quand même de vouloir tuer son frère au moment où il a compris la supercherie. Alors, on peut se poser des questions aussi. Si derrière Cain et Abel, vous avez un conflit entre deux modes de vie, puisque Abel nous est présenté comme un pasteur nomade ou semi-nomade, Cain comme un agriculteur sédentaire. Et il y a beaucoup de lectures un peu anthropologiques de Cain et Abel, où on imagine en fait que derrière ce conflit, il y a un conflit entre deux modes de vie. Alors, on peut citer, en effet, en Mésopotamie, un texte qu'on appelle parfois le mariage d'Inanna ou d'Ishtar, où le dieu de l'agriculture Enkidu se trouve opposé à Dumuzi, dieu de pasteur. Les deux veulent, en effet, épouser Inanna. Et Inanna, d'abord, en fait, préfère Enkidu, mais Dumuzi va ensuite dire « mais qu'est-ce qu'il a de mieux ?» que moi, donc il va dire, le fermier qu'a-t-il plus que moi? S'il me donne sa farine noire, je lui donne au fermier ma brebis noire. S'il me donne sa farine blanche, je lui donne au fermier ma brebis blanche. Et etc. Donc il y a toute une liste donc, qui fait que finalement Inanna va choisir Dumuzi, mais ça ne va pas très bien se passer pour Dumuzi. Ça, c'est une autre histoire, donc va un peu l'abandonner aux enfers, mais c'est dans un autre feuilleton. Donc la question, est-ce que derrière Genèse 4, vous avez l'idée qu'il y a une préférence pour les pasteurs? C'est difficile, puisque en fait le pasteur va être assassiné, donc c'est difficile de le lire dans cette perspective anthropologique. C'est plutôt en effet une réflexion sur le fratricide, sur le premier meurtre de l'humanité. Et si vous pensez à ce que je viens de vous dire sur Jacob et Ésaü, c'est l'inverse en fait, où c'est le chasseur qui cherche ensuite, une fois qu'il a compris qu'il a été trompé, à tuer son frère. Donc je pense qu'il faut être un peu prudent avec ces interprétations anthropologiques. Vous connaissez l'histoire, les frères vont chacun offrir une mincha. Une mincha, c'est une offrande. Une offrande, normalement, qu'on donne à un supérieur pour obtenir des grâces de ce supérieur, un roi. C'est un cadeau aussi qui fait le vassal au roi. Après, dans le Lévitique, mincha devient un terme technique pour l'offrande végétale. Ici, évidemment, c'est difficile d'avoir déjà cette idée, parce que des deux frères, il est dit qu'ils offrent des mincha, alors qu'il faut le prendre dans un sens, en effet, plus large. Les premiers-nés dont il est question dans le sacrifice ou l'offrande de Abel, c'est en effet une demande d'offrande qui est faite dans plusieurs textes, notamment dans le livre de l'Exode. Vous avez les textes ici. Alors, vous constatez, si vous voyez le texte, le sacrifice de Abel est décrit de manière plus détaillée. Hein, on dit, en effet, il donna notamment des parties grasses des animaux. Hein. Alors, on peut se poser la question, si c'est déjà un ajout d'un glossateur, qui voulait expliquer pourquoi finalement Dieu, Yahvé, préfère le sacrifice d'Abel. Parce que ça, c'est une grande question. On va revenir sur cette question, pourquoi Dieu préfère le sacrifice de l'un, ou l'offrande, je devrais dire, l'offrande de l'un, et pas de l'autre. D'ailleurs, le texte ne nous dit pas comment les frères se sont rendus compte de cela. Comment on a su que Yahvé tourne son regard vers l'offrande de Abel et détourne son regard de l'offrande de Caïn. Comme ils ont su. Alors les peintres ont su, souvent dans les représentations artistiques, vous voyez que la fumée de l'offrande d'Abel monte vers le ciel, alors que chez l'autre, chez Caïn, ça reste en bas. Mais le texte ne nous dit pas ça. Hein. D'ailleurs, c'est très rare, en fait, que la divinité rejette des sacrifices. Souvent, c'est accepté. Seulement quand c'est considéré comme illégitime, comme dans ce texte dans le Lévitique, où il y avait Nadab et Abihu, deux fils de Aaron, qui font un sacrifice qui ne leur a pas été commandé. Et alors là, ça rigole pas, parce qu'ils moururent tous les deux par le feu devant le Seigneur. Ici, il n'y a pas de mort de la part de Yahvé, la mort va venir par un des frères. Alors la grande question, pourquoi Yahvé préfère-t-il le sacrifice ou l'offrande de l'un et pas de l'autre? Dieu est-il juste ou partial ou incompréhensible? Alors il y a plein d'idées. Je ne peux pas non plus tous vous les détailler, mais par exemple, on a dit souvent qu'Caïn aura offert un sacrifice de moindre qualité. Le texte ne dit pas vraiment. Je vous dis, il y a peut-être une certaine tentative de dire que le sacrifice d'Abel est un peu plus fourni, mais difficile. Alors, il y a une tradition qui vient de Luther, qui met la faute sur Ève. Elle dit parce que Ève, en fait, aura eu des yeux que pour Caïn. Donc, Yahvé aura un peu équilibré les choses. Je ne sais pas si vous êtes convaincu. Le texte ne dit pas. Alors il y a une autre tradition juive qui vient de Rashi, disons, qui est surtout rendue populaire par Rashi, mais qui existe déjà avant. Caïn aura pris en fait son sacrifice de la Adama. Et au chapitre 3, souvenez-vous, Dieu a maudit la Adama, le sol. Mais ça ne joue pas non plus, parce qu'après, une fois que le couple humain est sorti du jardin, ils ont quand même l'ordre de travailler l'Adama, donc ça ne marche pas non plus. Ou est-ce qu'on peut dire que Dieu, Yahvé, préfère les sacrifices sanglants? Ce n'est pas dit non plus dans le texte. Dans Lévitique, on peut avoir l'impression, mais ici, ce n'est pas tout à fait dit. Alors après, on a dit que l'offrande de Caïn n'était pas sincère. Mais de nouveau, le narrateur ne nous dit rien. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans le Nouveau Testament, où on dit, dans l'Épître aux Hébreux, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Ne faisons pas comme Caïn, dit le premier Épître Jean, qui était du mauvais. Est-ce qu'il était du mauvais? Est-ce qu'il n'était pas sincère? Tout ça, c'est des interprétations qui sont un peu, comment dire, faites pour excuser Dieu d'une certaine manière. Donc Dieu ne peut pas être injuste. Mais, peut-être quand même, puisque dans Exode 33, Yahvé dit à Moïse, j'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Sous-entendu, je suis que je suis, je fais ce que je veux. Et c'est un peu ça, à mon avis, c'est un peu ça. Puisque derrière ce que fait Yahvé, il y a une expérience que vous avez toutes et tous fait dans votre vie. À savoir, vous avez tous à un moment eu l'impression que la vie n'est pas juste. Que vous êtes à l'école et votre copain a des bien meilleures notes que vous alors que vous travaillez dur. Ou que un tel est le petit préféré de la maîtresse. Donc tout ça... Bon, je ne vais pas détailler tout ça, donc n'allons pas trop dans la psychologie, mais c'est quand même quelque chose qui est lié à ça. Donc cette expérience d'une frustration parce qu'on ne se trouve pas bien traité par les parents, par les professeurs, par nos amis, etc. Et c'est exactement cette expérience que Caïn doit faire. Donc il y a cette expérience de l'inégalité, entre guillemets, qui provoque la frustration de Caïn. Et là, je vais aller très très vite, parce que ces versets 6 et 7, ils vont être présentés tout à l'heure par Michaela Baux, de manière tout à fait précise. Otto Proksch, qui est un des commentateurs de la Genèse, il a dit le verset 7, c'est le verset le plus obscur de toute la Genèse. Et la Septante a traduit « Si tu as présenté correctement, mais partagé pas correctement, n'as-tu pas péché ? Reste tranquille, que vers toi aille son mouvement et tu le commanderas. » Ça reste aussi obscur hein, par rapport. Donc il y a une question de la racine « Faire du bien », ça peut faire penser à la connaissance du bien et du mal. Le « n'est-ce pas ?» Ben, ça fait penser à que quelque chose est présupposé. Et puis, il y a cette question de l'élévation. Mais élévation de qui ? Du visage de Caïn, du visage de Abel. Tout ça reste très difficile, va du visage de Yahvé. Mais je vais laisser la question ouverte pour qu'on puisse l'approfondir tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, il y a aussi cette question du péché hein, qui apparaît ici pour la première fois. Et là, il y a un problème grammatical, le péché qui tapit avec un mot au masculin, un verbe au masculin, alors que le péché est féminin, et il est tapé avec une racine, rabatz, qui fait penser à rabitsu, une sorte de démon, qui guette dans des lieux déserts, la nuit sur le chemin. Et donc, il y a peut-être une sorte de personnification du péché, mais nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, le meurtre, il arrive comment ? Je vous ai dit lors de notre traduction la semaine dernière, il y a une rupture dans le texte hébreu. Caïn dit « Vayomer Caïn » et normalement en hébreu, si vous avez cette formulation, ben, les Hébraïsans le savent, il faut un discours direct. Mais il n'y a pas de discours. La Septante en a rajouté, et beaucoup d'autres traductions en ont rajouté, mais il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est sauté, ce discours, ou est-ce que c'est voulu ? Parce qu'au lieu de parler, il va tuer son frère. Hein ? Et donc, le premier meurtre, on peut dire, en fait, résulte de l'incapacité de communication. Donc, il y a une réflexion aussi sur l'absence de parole, parce que tout ça, si vous lisez le récit, tout ça se passe de manière muette. Les frères ne se parlent pas. Chacun fait son sacrifice, son offrande, mais il n'y a pas d'interaction. Et après, la première interaction, c'est Yahvé qui parle à Caïn. Caïn ne répond pas. Il parle sans parler. Et arrive le meurtre, premier meurtre de l'humanité, si on se situe dans l'histoire biblique, et qui est repris, comme vous le savez sans doute, par John Steinbeck dans ce fameux texte « East of Eden » à l'Ouest-Ed, où il a dit, en fait, c'est peut-être la meilleure, ou l'histoire la plus connue dans le monde, parce que c'est l'histoire de tout le monde. Hein ? Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, cette inégalité qu'il faut gérer d'une manière ou d'une autre. Et là, nous avons vu la semaine dernière qu'il y a beaucoup de parallèles avec Genèse 3. Hein. Il y a là aussi une interrogation. Cette interrogation vient très vite, mais le texte, là aussi, le texte ne nous dit pas beaucoup de choses. Qu'est-ce que Caïn a fait avec le cadavre de son frère ? Est-ce qu'il a laissé ? Alors là, c'est le Coran qui nous donne une explication dans la sourate 5. Allah, donc Dieu, a envoyé un corbeau qui s'est mis à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Donc là, c'est typiquement, donc vous voyez comment le Coran a le même type d'interprétation midrashique que vous trouvez dans le judaïsme. Donc c'est un midrash, en fait, sur l'histoire. Il se pose la même question, en fait, que les rabbins. Qu'est-ce qu'il a fait avec son cadavre ? Et puis, voilà, Ah là, on voit le corbeau. Alors, l'interrogatoire, la réponse, je ne sais pas. Donc on peut dire aussi, c'est le premier mensonge, puisque dans l'histoire de Genèse 3, ils n'ont pas vraiment menti. Si vous vous souvenez, l'interrogation de l'homme, de la femme, vis-à-vis de ce qu'ils ont fait, chacun a mis la faute sur l'autre. Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, il n'y a pas de mensonge. Mais là, apparemment, il y a la capacité de dire du faux. Je sais pas, dit Caïn. Et ajoute, suis-je le gardien de mon frère? Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste une réponse un peu désinvolte, cynique, ou est-ce que derrière chamar, qui est le mot hébreu, est-ce qu'il y a une question aussi, une réflexion, comment Caïn sait qu'il ne faut pas tuer? Il n'y a pas encore de loi, il n'y a pas encore de règles, il y a peut-être aussi une réflexion sur l'absence des règles qui vont venir plus tard. Donc, maintenant vient le constat, la sanction. Qu'as-tu fait? Même question qu'en Genèse 3. Hein, et le sang ici est pris au pluriel, damim. C'est le sang injustement versé où on trouve, pour la seule fois dans la Bible, que ce sang crie vers Yahvé. Hein, le Hatta, maintenant, va introduire la sanction. Hein, donc, tu es maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère. Hein, donc là, en fait, le sol, la Adama, elle est personnifiée, un peu comme dans le Lévitique, où c'est le pays qui vomit ses habitants, parce que ceux-ci ne respectent pas les commandements. Hein, donc c'est un peu une sorte de personnification de la terre ou du sol. Et donc, on rajoute encore, par rapport à la malédiction de la Adama, ce sol ne va plus donner assez de ce fruit pour vivre. Ici, en fait, ce travail n'est plus suffisant. Donc, vous vous souvenez, Adam peut se nourrir de la Adama, hein, même si c'est avec peine. Et ici, on prend encore un renforcement de cette malédiction, d'une certaine manière. Et l'idée que il y a un lien entre un meurtre ou un crime et un dysfonctionnement de la nature. Ben, vous pouvez penser à Œdipe roi, par exemple, où, en effet, à cause du crime non vengé du meurtre de Laios, il y a une peste qui va s'abattre, en fait, sur la ville. Hein? Tu seras errant et vagabond. Est-ce que c'est une étiologie de la vie nomade? C'est dit ici comme une punition. Il y a peut-être derrière quand même une réflexion sur la difficulté d'être nomade ou semi-nomade, mais le texte, en effet, ne va pas détailler. Alors, Caïn va comprendre qu'il a enclenché une sorte de spirale de la violence. Il dit d'abord « ma faute est trop lourde ». Là aussi, je passerai vite, puisqu'on va la reprendre. Et cette expression est en effet assez courante dans les psaumes de complainte, « ma faute est trop lourde ». Et « avon », c'est à la fois la faute et la punition. Hein? Donc c'est la faute et la punition. Et Caïn a compris que lui qui a tué risque d'être tué à son tour. Hein? Donc ce qu'on peut appeler la spirale de la violence. Donc là, il n'y a pas seulement une réflexion sur l'inégalité, il y a aussi une réflexion sur la violence de manière plus loin. Donc si vous regardez le verset 14, « Quiconque me trouvera, me tuera. » Donc là, vous constatez quoi par rapport à la logique narrative? Ben, la terre est peuplée. Alors qu'ils étaient les premiers descendants du couple premier. Donc, mais là, dans le mythe, ce n'est pas un souci. Hein, donc la terre est peuplée. Et donc, maintenant, il faut régler cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec un meurtrier? Est-ce qu'on va le tuer également? Et l'intervention de Yahvé, ben, elle va d'abord un peu dans ce sens. Donc Yahvé essaie, comme il avait fait des vêtements pour le premier couple humain, maintenant il essaie en effet, là aussi, de protéger le meurtrier. Donc, si vous cherchez les textes dans la Bible hébraïque contre la peine de mort, c'est là. C'est pas dans après le déluge, et ça va en effet s'établir. Mais là, il va dire d'abord, bien, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé sept fois. Mais là, on reste dans la logique de la rétribution. Tu m'as fait de mal, je te ferai encore plus de mal. C'est-à-dire, l'idée, évidemment, c'est qu'on se prendra aux membres de la famille et du clan pour également les sanctionner, pour les tuer. Bon, malheureusement, c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de vous faire beaucoup de dessins. Mais, et ça aussi, c'est assez relié à ce que vous avez en Genèse 3. En Genèse 3, je vous ai dit, Dieu est un peu bricoleur, il essaye. Quand il a dit, il faut que l'homme a un vis-à-vis. Il fait d'abord les animaux. Et après, il se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça, donc il va créer ce redoublement homme-femme. Et ici, il dit d'abord, bon, on va le venger cette fois, mais après, il va mettre un signe sur Caïn pour quiconque qui le trouve ne le touchera pas, il ne peut pas le toucher. Hein? Donc c'est autre chose que dire, il sera vengé cette fois. Donc là, il y a aussi une sorte de réflexion, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette violence? Et évidemment, de nouveau, le texte est très sobre. Là aussi, des articles entiers ont été écrits sur qu'est-ce que c'est le signe de Caïn. Ben, si vous avez une idée, vous venez me voir après et vous me le dites. Il y a beaucoup de choses. On a parlé de tatouages. Hein, c'est possible, mais alors on a pensé que le Kénite avait un certain tatouage. Bon, mais le texte ne le dit pas non plus. Hein. Est-ce que c'est quelque chose, un nom sur le front? Parce que ça, il y a dans le livre d'Ézéchiel, quelqu'un qui mettra un taf sur le front pour marquer quelqu'un. Là, de nouveau, le texte ne dit pas. Est-ce que c'est simplement cet énoncé divin que personne ne peut le tuer? C'est possible aussi. Et puis, dans la tradition rabbinique, c'est sympathique. En fait, le signe, ça aurait été un chien que Yahvé aurait donné à Caïn pour le protéger. Mais là, je pense qu'on s'éloigne quand même aussi pas mal du texte. Et donc, Caïn va s'installer à l'est d'Éden, dans le pays de Nod. Vous n'avez pas besoin de chercher le pays de Nod dans votre carte, dans vos cartes, ça n'existe pas. Donc c'est juste un jeu de mots avec la racine qui était utilisée auparavant, où il disait « je serai errant hein, ». Donc la racine « nun vav dalet » veut dire en effet « errer ». Et le pays de Nod est construit avec cette racine. Alors on aura pu se dire l'histoire arrête là, mais elle ne s'arrête pas là. Parce que si l'histoire s'était arrêtée là, même au niveau diachronique, parce qu'il y a des gens qui disent la généalogie qui vient après, elle n'est pas liée à l'histoire. Mais si on avait arrêté là, l'histoire, ce sera quoi? Parce que pour le moment, Caïn, il est tout seul, contrairement à cette image où Caïn... marche déjà avec toute sa tribu, hein, Caïn est tout seul. Donc s'il avait arrêté l'histoire là, on n'aura pas su comment l'histoire de l'humanité va continuer. Hein. Donc la première, il y a deux généalogies, vous vous souvenez, mais je vais vous les présenter. Il y a la première généalogie qui apparaît dans les versets 17 à 24, qui à mon avis fait partie du premier récit. Hein, fait partie du premier récit, parce qu'il faut savoir, en effet, alors on peut dire que c'est un genre littéraire différent, mais c'est une généalogie quand même qui est assez narratif et qui explique en fait ce qui va arriver à Caïn. Ben, il va trouver une femme et il va devenir en fait l'ancêtre de toute une série de générations qui vont en effet inventer la civilisation. Ça, c'est un peu freudien aussi, donc l'idée, en fait, que la civilisation est une manière de contenir la violence. Hein? Donc, le premier meurtrier devient aussi fondateur de la civilisation. Et donc, nous allons voir que nous avons ici une généalogie sous-jacente, mais qui est mise dans une narration, qui sera un peu différente de la généalogie sacerdotale du chapitre 5, et que les rédacteurs ont essayé de combiner comme ils ont pu. Ils avaient deux traditions, hein, deux généalogies différentes. Et la première, c'est une généalogie qui est au service un peu d'expliquer comment, en fait, vont naître les acquis de la civilisation. Hein. Une idée que nous avons aussi par ailleurs, donc je vous renvoie simplement à l'histoire de la Phénécie de Philon de Byblos, que nous connaissons seulement par le père de l'Église Eusèbe, hein, mais où vous avez en effet là aussi une généalogie de 14 générations qui vont fonder l'agriculture, la chasse, la pêche, les bateaux, les maisons, les vêtements, la médecine, l'écriture et aussi la religion. Donc c'est un peu cette idée. Évidemment, ces quelques versets sont beaucoup moins complètes. Et il y a aussi des personnages dont on n'apprend rien par rapport à leur rapport civilisationnel. Donc, ça commence par Caïn connu sa femme. Donc là, c'est qui la femme de Caïn? Ben, elle n'est pas présentée. Les rabbins en ont fait une sœur de Caïn et Abel. Parce qu'il y a dans le texte hébreu, quand Ève enfante est Abel, et il continue à être, deux fois on a en fait le marqueur de l'accusatif, et les rabbins ont dit, en fait là, on parle d'une fille, mais ça, ce n'est pas dit dans le texte, et ce n'est probablement pas sous-entendu. Là, il y aura toute une réflexion intéressante aussi sur l'inceste, mais je pense que ce n'est pas vraiment l'idée, donc on ne sait pas d'où vient la femme, mais l'idée c'est que l'histoire va continuer, qu'un réfugié, quelqu'un qui va s'exiler, devient fondateur de ville ou d'une société, ben, vous avez la fondation de Thèbes par Cadmos, qui est assez comparable finalement. La question, par contre, qu'il faut se poser, c'est qui construit la première ville? Est-ce que c'est Caïn ou Enoch? Si vous lisez le texte, Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et elle enfanta Enoch. Il construit alors une ville. C'est qui le « il » ? Grammaticalement, ça devrait être Enoch. Mais après, les choses se compliquent, puisqu'il appela le nom de la ville comme le nom de son fils Enoch. Ah oui, là, il y a quelque chose qui s'est un peu mélangé. Alors, c'est probablement un texte qui est un peu corrompu, qui n'a pas été transmis comme il faut. Donc, on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer qu'à l'origine, on avait simplement « il l'appela d'après son nom Enoch ». Donc, ça veut dire que Enoch aurait fondu la ville et il l'aura appelé d'après son nom. Hein? Donc, ça, c'est une possibilité. Mais il est possible aussi qu'on avait d'abord... Simplement, il l'appela selon le nom de son fils, Bonnet Benon. Et le fils, après, c'est ça ce qui est intéressant, parce que quel sera le fils de Enoch? Il s'appelle Irad. Et Irad, on peut le mettre en relation à Ir, la ville, mais aussi avec la ville de Eridu, Eridu qui se trouve ici et qui dans la liste sumérienne de la royauté est la première ville du monde puisque cette liste sumérienne commence lorsque la royauté était descendue du ciel. Eridu fut la ville de la royauté. Donc je pense on a qu'un Enoch qui construit la ville et qui l'appelle selon le nom de Irad, Eridu. Après, on a le Meuyael, les Metushael, c'est des hommes ou des noms théophores avec l'élément El, mais dont on n'apprend pas grand-chose. Et là, autre chose encore, Lamec, dont personne n'a résolu la question de l'étymologie. Donc, si vous voulez faire une petite recherche, on a dit parfois dans les commentaires, mais ça se répète commentaire en commentaire, on aurait dit ça aurait été une divinité mésopotamienne de la musique. Et j'ai demandé quand même mes collègues assyriologues qui disent c'est n'importe quoi, ça n'a jamais existé. Mais on voit parfois que ce n'est pas toujours très sérieux, la recherche, parce que les gens sont parfois un peu paresseux et ils prennent pour monnaie courante ce que vous trouvez dans un livre. Faites jamais ça. Donc essayez vraiment de voir les... il faut que les gens fassent des notes, qu'ils disent où ça se trouve. Hein? Donc la petite idée que j'ai, puisque j'ai récemment discuté avec une collègue qui fait des études indiennes sanskrit, que ça pourrait être un mot sanskrit, l'amaka, qui existe, c'est un amant, quelqu'un qui est un peu viril. Et puis Lamech, vous vous souvenez, il a quand même deux femmes, donc c'est lui qui invente en fait la polygamie ou la bigamie. Donc c'est un nom qui pourrait un peu jouer pour Lamech. Mais là aussi, si vous avez des idées, je suis tout à fait preneur. Donc il a deux femmes, Lamech, Ada, qui est aussi le nom de la première femme d'Ésaü, et Tsila. Et maintenant, en fait, la généalogie qui était linéaire, qui va de génération en génération, là, elle devient en effet segmentée, puisqu'on va avoir plusieurs fils et une fille qui descend de Lamech. Donc on passe du linéaire à une généalogie segmentée. Donc d'abord, on a les enfants de Ada, Yabal et Yubal. Donc c'est évidemment aussi certainement des associations, les deux ont des noms un peu similaires. Est-ce qu'on veut suggérer que là aussi il s'agit des jumeaux? Possible, hein, mais pas dit dans le texte, qui veut dire un produit. Yabal va être le père de ceux qui habitent dans les tentes, et donc peut-être une idée de cohabitation entre des fondateurs des villes ou des villages et des semi-nomades qui habitent à proximité des villages. Il y a aussi dans une autre liste royale assyrienne, on parle en fait des rois qui vivaient sous la tente avant qu'il y ait eu les palais et les villes. Yubal va devenir un peu comme Pan, l'ancêtre des musiciens. Hein, et puis les deux frères, ça va être complété par Tubal, Cain, qui est la descendance de Tsila. Hein, et cette descendance, elle va s'appeler Tubal-Cain dans le texte massorétique. Dans la Septante, vous avez simplement Tobel. Donc peut-être Cain a ajouté après coup, c'est possible. Donc du coup, on aura eu en fait trois fils, Yaval, Yuval, Tuval. C'est une belle association. Donc c'est possible en effet qu'à l'origine, c'était ces trois fils. Tubal, vous pouvez peut-être le mettre en relation avec ce petit royaume de Tabal qui est en effet mentionné dans des textes néo-assyriens, et Tubal réapparaît comme descendance de Yafet dans la liste des peuples, donc il y a sans doute un lien. Et puis il y a une fille, donc la première fois qu'on parle d'une fille, Naama, qui, la racine veut dire être plaisant, être agréable, et puis une tradition juive, selon le Targum pseudo-Jonathan, elle est la maîtresse de tous les chants, voire à l'origine de tous les musiciens, parce qu'en effet, en Nehima devient aussi le chant en hébreu tardif. Après, on en a même fait la femme de Noé, parce qu'il faut aussi lui trouver une femme, donc, mais là, de nouveau, le texte ne nous le dit pas. Et la généalogie se termine d'abord par quelque chose de très bizarre, par ce chant de vantardise, qui est très étonnant dans une généalogie, parce que Lamech va dire « J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Cain, en effet, sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. » Donc qu'est-ce qu'on a là? On a une sorte de retour à ce spirale de la violence. Donc Lamech va réenclencher cette idée, la vengeance, elle doit être démesurée. Et c'est ainsi que se termine cette première généalogie. Donc pour dire en fait, le signe ne suffisait pas. Donc cette question de la violence, elle est toujours là. Et vous vous souvenez que l'explication du déclenchement du déluge dans la version sacerdotale, ça va être que la violence s'était répandue sur la terre. Donc c'est peut-être déjà écrit dans cette perspective-là, hein, donc ce Lamech qui parle d'une vengeance démesurée qui est donc renforcée. Et du coup, là, je suis assez sûr qu'on a rajouté deux autres versets, puisque après, on va avoir au chapitre 5 une autre généalogie qui commence avec Adam, Seth et Enoch. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc ici, on va dire, en fait, Seth va remplacer Abel. Ça, c'est l'idée du narrateur ou du rédacteur. Seth, c'est ce qu'on appelle un nom de ersatz, puisque on a des noms comme ça, comme Assarhaddon. Assur a donné un frère. Donc, il faut imaginer, la divinité a remplacé, a mis quelqu'un à la place. C'est le nom de Seth. On ne sait pas très bien ce qu'il faut mettre autour de ce personnage. On trouve des fils de Seth, dont un oracle de Balaam, mais de manière plutôt négative. Donc, ce n'est pas très bien. Là, de nouveau, beaucoup de choses encore à clarifier. On parle des fils de Seth, qui, dont nombre 27, suggère une localisation de cette tribu à proximité de Moab. Et puis, il y a le dernier, Enoch, qui est une sorte de parallèle poétique pour Adam. Enoch, comme nom propre, nous l'avons seulement ici, en Genèse 5, dans la généalogie qui va venir. Et dans 1 Chronique 1, qui dépend en effet de la Genèse. Donc, on dit à l'époque de Enoch qu'on commença alors à invoquer le nom de Yahvé. Ça, c'est aussi très curieux, cette remarque, qui peut être encore un autre ajout dans l'ajout. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ça? Parce qu'on est en contradiction. On est en contradiction avec la théorie sacerdotale, dont je vous ai déjà dit. Selon la théorie sacerdotale, en fait, depuis quand est-ce qu'on connaît le nom de Yahvé? Depuis l'époque de Moïse, puisque en Exode 6, Yahvé va dire « Je suis Yahvé, je me suis fait connaître comme El Shaddai à Abraham, Isaac, à Jacob, mais sous mon nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître. » Donc, pourquoi on a ça? Parce que, je pense, il y a évidemment des textes qui sont plus anciens que la version sacerdotale et pour lesquels, si vous prenez l'histoire d'Abraham, Abraham, dès qu'il fait son voyage, il arrive entre Sichem et Bethel. Il est établi, bâti un hôtel, et on va dire « Vayikra Beshem Adonai ». Il appela le nom de Yahvé. Et c'est nullement expliqué comment Abraham a connu Yahvé. C'est un texte non sacerdotal, évidemment. Donc je pense qu'il y a un rédacteur qui s'est dit « Mais il faut quand même qu'on sache que le nom de Yahvé est déjà connu. » Et c'était là une occasion de le dire. De dire, en fait, on le sait depuis les origines. Et on peut aussi imaginer, mais ça c'est peut-être un peu une surinterprétation, je vous l'accorde, que invoquer le nom de Yahvé, c'est aussi une expression un peu rendre un culte à Yahvé, par la parole. Et souvenez-vous, le sacrifice ou l'offrande des deux frères, tout se dit, en fait, sans parole. Tout se fait sans parole. Et donc, en fait, suite aux 77 fois de Lamech, une alternative, c'est la parole peut-être, et c'est ce qui est insinué ici avec la racine Kara Beshem Adonai, invoquer le nom de Yahvé. Donc, une sorte d'opposition entre cette invocation de Yahvé et le sacrifice muet des deux fils. Donc c'était sans doute un texte qui était rajouté pour expliquer l'origine de la violence, des possibilités de gérer la violence et aussi le danger que cette violence éclate chaque fois. Donc je pense un texte assez réaliste quelque part au niveau de l'anthropologie qui peut en effet nous intéresser encore aujourd'hui. Et après nous avons maintenant au chapitre 5, nous avons une autre manière de faire le passage de Adam au déluge. Ça, c'est peut-être pas le texte le plus passionnant de la Genèse, puisque vous avez que des listes de patriarches. Il n'y a pas de matriarche. Ben non, on ne sait pas. Ce n'est pas le nom des femmes. Et puis, ils n'ont que des fils dont on sait les noms. Donc, c'est un peu curieux. Hein, mais il est important quand même d'y s'y intéresser parce qu'il y a plein de choses qui se jouent là-dessus. Donc, c'est pour cela que je vous demande un peu d'attention. Il va y avoir question de beaucoup de nombres aussi, des durées de vie qui peuvent nous impressionner. Comme le fameux Methuselah, Mathusalem, hein, qui a vécu quand même 969 ans. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut viser, je ne sais pas. Mais tout ça, c'était avant le déluge, hein, je vous l'assure. Donc je vous lis très vite la traduction. Voici le livre des Toldot ou des engendrements d'Adam. Le jour où Dieu créa un être humain, il le fit à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle, il le créa. Il le bénit et appela leur nom, être humain, au jour où il fut créé. Donc ça, vous vous souvenez, ça renvoie au récit de la création. Alors, Adam vécu 130. Et maintenant, je vous mets toujours en parenthèse d'autres nombres, puisque la Septante et le texte massorétique divergent souvent, mais aussi le texte samaritain peut avoir des indications différentes. Donc là-dessus, sur les âges de patriarche, il n'y a pas vraiment de consensus. Et c'est très intéressant, vous allez savoir, et ça nous montre des choses aussi très très intéressantes. À savoir qu'on a retravaillé, on a trafiqué le texte biblique jusqu'à l'époque asmonéenne, jusqu'au deuxième siècle avant notre ère. Donc on ne peut pas dire que le Pentateuque, à l'époque perse, tout est déjà fait. Bon, enfin, ça c'est autre chose. Donc je vous lis d'abord, vous regardez les autres noms. Donc Adam a vécu 130 ans, il engendra sa ressemblance et selon son image, un fils, il faut ajouter, il appelait son nom Seth, que vous avez vu. Les jours d'Adam, après qu'il a eu engendré Seth, furent 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Adam qu'il avait vécu furent 930 ans, et il mourut. Seth vécut 105 ans, et il engendra Enosh. Seth vécut après avoir engendré Enosh 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent 912 ans, et il mourut. Enosh vécut 90 ans, il engendra Kenan. Enosh vécut, après avoir engendré Kenan, 815 ans, donc vous voyez toujours les différences, il engendra des fils et des filles. Tous les jours, la vie de Enosh furent 905 ans, et il mourut. Kenan vécut 70 ans, il engendra Mahalalel. Kenan vécut après avoir engendré Mahalalel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de la vie de Kenan furent 910 ans, et il mourut. Mahalalel vécut 65 ans, et il engendra Yered. Mahalalel, après avoir engendré Yered, vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, et il mourut. Yered vécut 62 ans et 100 ans, et il engendra Enoch. Yéret, après avoir engendré Enoch, vécut 805 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de la vie de Yéret furent 962 ans, et il mourut. Donc là, vous voyez les différences. Donc vous me suivez toujours, ça va être fini bientôt. Enoch vécut 65 ans, et il engendra Methuselah. Donc Enoch marcha avec la divinité 305 ans, et après avoir engendré Methuselah, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Enoch furent 365 ans. Enoch marcha avec la divinité, il ne fut plus là. Il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Donc là, on sort un peu de la généalogie. Mais Methuselah vécut 187 ans et il engendra Lamech. Methuselah vécut, après avoir engendré Lamech, 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah furent 969 ans et il mourut. Donc je pris les noms selon la Tobe, parce que c'est toujours très difficile de les transcrire, donc je me suis là inspiré de la traduction œcuménique de la Bible. Lamech vécut 182 ans, il engendra un fils, il appela son nom Noé, 10 ans, c'est lui qui nous consolera de nos labeurs et de la peine de nos mains à cause du sol que Yahvé a maudit. Donc là, en fait, c'est intéressant, puisqu'on donne une explication du nom de Noé avec une racine consolée, alors que le nom Noach, est basée sur une racine plutôt donner du repos ou se reposer. Lamec, après avoir engendré Noé, vécut 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lamec furent 777 ans et il mourut. Noé était âgé de 500 ans et Noé engendra Sem, Cham et Yafet. Et après vient, comme vous le savez, et comme on le verra la semaine prochaine, l'histoire du déluge. Donc, au fait, nous avons ici 10 patriarches avec des durées de vie assez longues. Donc, comme je disais, les matriarches sont absents. Et c'est en fait une énumération assez récurrente. On a toujours le nom du patriarche. On a son nom au moment de l'engendrement du premier fils, dont on va donner le nom. Ensuite, les années de vie qui lui restent. Une note qu'il a engendré bien d'autres fils et des filles, mais dont on ne donne pas les noms. Et puis, une note sur l'âge total du patriarche et l'indication de sa mort. Donc, deux exceptions dans cette liste assez structurée. Il y a Enoch, nous avons vu que dont on dit quelque chose, il marche avec la divinité, et on dit qu'il a été pris. Il était pris. Donc probablement enlevé, on verra ça en détail. Et puis sur Lamec et Noé, on annonce que l'âge de Noé au moment de son engendrement, et on ne dit pas la suite puisque vient l'histoire du déluge, et on va présenter 3 fils, contrairement aux autres patriarches qui le précèdent. Alors c'est une liste qu'on dit souvent pris dans le document sacerdotal, mais si vous vous souvenez ce qu'on avait vu sur les Toldot en Genèse 2-4, je vous ai dit, peut-être à l'origine existait en fait un livret des Toldot, des engendrements, que P, l'auteur sacerdotal, a utilisé pour en fait inscrire dans cette liste sa propre histoire. Donc c'est un peu une source, un document que P avait à sa disposition. Et P, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris ce livret. Mais il a fait précéder ce livret par ces 3 premiers versets où, en effet, on fait allusion à l'histoire de la création. Donc, vous vous souvenez, je n'ai pas besoin de vous donner tous les détails. Vous pouvez comparer, en fait, cette liste, ou cette synopse plutôt. Et là, il y a une particularité. Lorsque, en Genèse 5, on renvoie à Genèse 1, on dit mâle et femelle, il les créa, il les bénit et il appela leur nom Adam le jour où il fut créé. Donc ça, on ne l'a pas dans l'histoire de Genèse 1. Donc là, c'est comme Adam, un nom qui est donné par la divinité, alors qu'en Genèse 1, on dit simplement faisons un Adam à notre image, mâle et femelle. Et pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'en fait, on a un petit problème avec Adam. À savoir que Adam, normalement, c'est un terme générique, c'est l'être humain, mais dans la généalogie, Adam est utilisé comme un nom propre. Et donc, du coup, il faut expliquer comment Adam peut être à la fois mâle et femelle, mais aussi un nom propre. Et ça, c'est en fait le but de cet ajout sacerdotal que vous avez au début de cette généalogie. Donc on peut dire que ça c'est un rajout de P sur la liste plus ancienne. On peut aussi se poser la question sur Enoch, parce qu'Enoch, on a 2 fois, il marcha avec la divinité. On pourra même traduire, il marcha avec les dieux. En hébreu c'est aussi possible parce que c'est « Hitalech et ha-Elohim ». Donc là on veut en effet insister sur Enoch comme étant un être particulier, peut-être aussi parce qu'il ne vit que 365 ans, ce qui est l'âge le plus modeste dans la série. Donc on va dire, oui, mais il n'est pas mort, il a été pris. Donc c'est peut-être là aussi une révision sacerdotale qui voulait expliquer que Enoch fut un être exemplaire et il n'a vécu que 365. 365, ça vous fait penser à quoi? Bon, ben on verra ça. Alors, et puis il y a encore l'explication étiologique du nom de Noé, qui aussi interrompt la liste, et qui, en effet, renvoie à Genèse 3, et qui présuppose, et qui n'est pas tellement l'idée sacerdotale, parce qu'on parle en effet dans cette étiologie ou explication du nom, on dit à cause du sol que Yahvé a maudit. Donc là, on utilise le tétragramme, alors que chez P, ce n'est pas le cas. Donc c'est certainement un ajout non-P, post-P, sans doute. Donc il faut imaginer qu'à l'origine, on avait simplement Lamech vécu 182 ans, engendra Noé, Lamech après avoir engendré Noé, etc. Et finalement, la notice sur Noé, dans sa forme actuelle, ce n'est pas non plus tout à fait cohérente avec le reste de la liste, puisque c'est introduit par Vayuhi Noach Ben, je ne sais plus, de 500 Shana. Donc Noé était un fils de 500 ans. Hein, alors que pour les autres, on a Vayechi, il vécut, donc ce n'est pas la même racine, il vécut tel nombre d'années. Donc, et puis on rajoute pour Noé, là aussi, non pas un, mais trois fils. Donc c'est certainement une révision d'une ancienne notice sur Noé pour faire le lien avec Genèse 6-9. Voici le toldot de Noé. On va continuer, on peut, comme vous le voyez ici. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Noé marchait avec la divinité. Donc c'est pour cela, vous voyez, ce que je vous ai dit sur Enoch, il marchait avec la divinité, même expression, donc probablement attribuable au même rédacteur. Voilà, donc derrière cette généalogie, vous avez des traditions. Vous avez des traditions comme notamment les listes royales sumériennes, hein, qui existent dans des versions différentes depuis la fin du troisième millénaire, mais qui ont été très populaires tout au long de l'histoire, puisqu'on en retrouve encore des listes au IIIe siècle chez un prêtre babylonien qui s'appelle Béroz, hein, et qui écrit en grec, et qui a en fait des listes tout à fait comparables. En général, on a 10 personnes, comme dans notre cas en Genèse 5, et les listes sumériennes se terminent très souvent par Tsiusudra, le héros du déluge sumérien dont je vous parlerai la semaine prochaine. Donc là, on est quand même très proche. Et là aussi, les durées de vie sont très très longues, beaucoup plus longues encore que dans Genèse 5. Donc là, vous avez la liste, je ne vais pas vous lire tous les noms, je vous dis simplement, donc ça se termine avec ce Tsiusudra. Donc voyez les durées de vie. Donc on calcule en sar et en er. En sar c'est 3600 et en er c'est 600, donc c'est un système sexagénal. Et donc Tsiusudra, le héros en fait du déluge, et Ubaratutu qui précède, c'est dans l'épopée de Gilgamesh, comme par hasard, le père de Utnapishtim, le héros du déluge selon l'épopée de Gilgamesh. Donc c'est clairement lié en fait là aussi à faire une liste de personnages qui ont été là avant le déluge. Il y a certains assyriologues qui essayent encore de trouver là des rois historiques derrière cette liste, mais je crois qu'il faut abandonner cette idée. C'est simplement une manière de dire voilà comment était la durée de vie. Et là, et ça c'est une différence par rapport à Genèse 5, on va insister aussi sur les villes. La royauté va changer de ville. Donc on va commencer avec Eridu, on en a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez de Eridu, non? Et puis on va terminer par Shurupak. Mais ça, ce n'est pas vraiment ce qui est repris. Alors Béroz, je vous ai dit, en effet, que Béroz a la même liste, hein, mais il va indiquer aussi, à côté de ses rois, sept personnages. Alors parfois on les appelle des monstres marins, mais c'est plutôt des êtres hybrides, mi-poissons, mi-humains, hein, qui vont apparaître en effet à côté des rois. Et on a une tablette qui vient aussi de l'époque, c'est aussi de l'époque grecque, qui s'appelle la liste des Apkalous, c'est comme ça qu'on appelle ces êtres hybrides, qui sont aussi qui apportent en fait la civilisation. Hein. Et on va voir que le septième roi et le septième de ces personnages, bah, c'est un peu comme Enoch. On parlera de cela quand on arrivera à Enoch. Donc, il est clair que cette liste, c'est clairement inspiré de Bérose plus que la liste sumérienne. Mais la liste sumérienne, en fait, c'est la même qu'on retrouve chez Bérose. Donc, je vous ai dit, c'est en effet une généalogie que vous avez en Genèse 5 qui a des parallèles avec la généalogie dont nous venons de discuter en Genèse 4. Donc, si vous regardez le rouge, Adam, Seth, Enoch, ça, c'est la charnière. Et après, vous avez des personnages qui sont soit identiques ou ont des noms qui sont très proches, hein, comme Yéred, Irad, par exemple, hein, mais qui ne sont pas forcément dans le même ordre. Donc, ça veut dire, en effet, qu'il y avait des traditions sur des personnages, mais qu'on a organisé de manière différente en Genèse 4 et en Genèse 5. Et ce qui manque, en fait, en Genèse 4, et ça va être très, très important pour la suite, c'est les indications numériques, les indications de l'âge de tout ce beau monde-là. Donc, voilà. Donc ça, je ne vais pas vous discuter maintenant tous ces âges, mais je vous ai mis sur ce tableau l'âge du premier engendrement qui peut varier entre texte massorétique 70 et samaritain. Ensuite, vous avez la durée des vies restantes et après, vous avez l'âge total. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce que vous observez? Que, évidemment, il y a, dans les premiers cinq, c'est à peu près stable. La 70 joue avec... Elle rajoute toujours 100 au moment du premier engendrement. Il enlève 100 après pour la totalité de vie. Donc, on reste un peu stable. Mais après, en effet, ça change de manière assez drastique. Hein. Et donc, en fait, on peut, en effet, dire qu'il y a une sorte de stabilité dans la transmission de l'âge des cinq premiers patriarches, ce qui veut dire que là, il y a un certain consensus, mais après, ça change beaucoup. Et pourquoi ça change beaucoup? Parce que il y a là derrière des visées, pas seulement chronologiques, mais peut-être aussi des visées théologiques. Donc, on peut faire la théologie avec des nombres. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails maintenant, mais par exemple, si vous prenez le Samaritain, donc la dernière colonne ici, vous observez quoi? Vous observez en fait que l'âge des patriarches descend constamment. Hein, vous voyez, ça descend constamment. Donc le Méthousalem chez le Samaritain, ce n'est pas le plus âgé. Donc, le Samaritain veut faire descendre. Donc, Jan Gartz dit c'est un signe que l'humanité devient de plus en plus mauvaise et puis que Dieu raccourcit la durée de vie. Mais là, c'est peut-être un peu une surinterprétation de cette affaire. Hein. Et après, et puis je vais m'arrêter avec ça. Après, si vous prenez la chronologie sous-jacente, vous avez des observations tout à fait intéressantes. Parce que là, à part le calendrier hébraïque qui est encore en fonction aujourd'hui se base sur de tels calculs, en fait. Hein. Puisqu'en fait, sur les textes massorétiques, les débuts des déluges arrivent en 1656 de l'âge de la Terre. Hein, si Adam, c'est 1. On arrive à 1656 et pour le Samaritain, on est un peu plus jeune, 1307. Donc, je ne vous fais pas le détail de tous les calculs des âges, mais donc ça, c'est l'aboutissement. Alors que la 70 a le plus long. Dans la 70, dans le texte grec, on est à 2242. Et qu'est-ce que vous observez? Chez la 70, il y a un problème. Si vous regardez l'âge de Mathusalem, vous observez quelque chose? Il a dû survivre au déluge. Ouais, bah ça, c'est un problème. Alors que dans le texte massorétique, il meurt justement l'année du déluge. Donc, sous-entendu, sans doute, il est englouti par le déluge. Et pour le texte samaritain, il y a trois des patriarches, Yéred, Methuselah et Lamech qui meurent au moment du déluge, en fait, qui sont engloutis par le déluge. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et ça, je vous dirai la semaine prochaine. Voilà, donc je vous rappelle que tout à l'heure, bah, dans 20 minutes, 25 minutes, Michaela Baux, que je vais vous présenter à ce moment-là, elle va vous préciser tout ce qui est autour du péché, la traduction de ce texte difficile. Hein, et puis la semaine, nous allons continuer avec la fin de ces généalogies et le début de l'histoire du déluge, notamment, comme on me l'a demandé, l'histoire des fils de Dieu qui couchent avec les filles de l'homme, des hommes, qui semble vous intriguer beaucoup. Alors je pourrais vous donner quelques éléments la semaine prochaine, et puis je vous retrouve tout de suite là pour le séminaire. Bonne journée et à bientôt.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.